Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Nous sommes ici invités par le Loka de Paris. Dehors, la sirène sonne. Le Loka de Paris est un lieu, Loka, qui est dédié à la pratique je ne sais pas s'il faut dire de la méditation, de la contemplation, de la pleine présence, de la pleine conscience. De la mindfulness. Il y a beaucoup de noms pour une même expérience. Dans ce lieu est dédié, consacré à la pratique d'une expérience. L'expérience de l'état de présence. Nous avons ici un illustre ancêtre, le Bouddha, qui a enseigné cela il y a 2500 ans. Mais qui lui-même dit n'avoir fait que rouvrir une voie ancienne. La voie de la présence on pourrait peut-être dire, remonte à la nuit des temps. Ou a toujours été présente. Donne d'une certaine façon, rien de nouveau. Rien de nouveau si ce n'est notre oubli notre oubli du présent. Est-il possible d'oublier le présent? Ladies and gentlemen, est-il possible d'oublier le présent? Il semble, c'est une hypothèse, que oui. Il semble même, toujours une hypothèse, que plus ça va, plus l'on l'oublie. Comment est-ce possible? Comment peut-on oublier l'instant présent? À votre avis, cher Max Paul,
en mettant 3 secondes en avance ou 3 secondes en retard.
En étant trop préoccupé par le futur, voire angoissé par le futur, et, ou en restant trop dans des souvenirs qui ont pu être douloureux du passé, donc en n'arrivant pas à oublier le passé.
En ressassant le passé et en anticipant l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons, de ressasser le passé et d'anticiper l'avenir? Yes, I do. Autre question. Plus incisive. Faisons-nous quelque chose d'autre que ressasser le passé et anticiper l'avenir? On va faire circuler une feuille. Oui, non. Peut-être, je ne sais pas, cochez la case. Monsieur, et puis je vous passe la parole après.
Je crois surtout qu'on s'écarte de qui on est. On s'écarte beaucoup de qui on est. Et je pense que la présence, c'est déjà de savoir qui on est et de s'écouter soi-même. Et du coup, si on ressasse beaucoup le passé ou si on anticipe l'avenir, c'est aussi parce que du coup, on se fuit soi-même dans la société dans laquelle on vit actuellement. Enfin, c'est mon ressenti.
On se fuit soi-même en ressassant le passé et en anticipant l'avenir. Je crois que c'est une proposition sérieuse. Mais soi-même, où est-on alors? Et l'on se fuit en ressassant le passé et en anticipant l'avenir. L'on ne serait ni dans l'un ni dans l'autre. Ce soi même, où serait-on?
Ailleurs dans l'espace, voire dans la lune.
Oui, je le connais. Dans l'espace. Mars, Vénus, Sirius, Soleil, Lune. Je vous taquine, je sais. Si l'on... Je suis l'hypothèse, se fuit dans le passé, ressassé, et dans l'avenir, anticipé. Serait-on entre les deux? Serait-on dans le présent? Ce soir, les gentils organisateurs, Monsieur le Président, les membres du Ganshi, m'ont demandé de vous présenter la méditation source de santé et d'harmonie. Ce que l'on nomme communément méditation, c'est un mauvais terme. Qu'est-ce que méditer? C'est ne pas méditer. Donc, ça relativise déjà l'utilisation du terme. C'est une pratique, une expérience, un état. Et notre hypothèse est que cette pratique, cette expérience et cet état sont bons. Sont bons. Bons car source. Non. Ils ont écrit de santé et d'harmonie. Je dirais d'harmonie et de santé. La pratique de la méditation est la source des trois H. en anglais, excusez-moi, qui sont Harmony, House and Happiness. Seul, s'il vous plaît, puisque vous êtes près du tableau de bord, du paperboard, vous pouvez tirer un petit trait et écrire 3 H. 3 H. Et puis ensuite, Harmony, Health, et Happiness. Il y a peut-être 2 P en anglais, ça le fait bien. Et comme nous sommes en France, on va écrire harmonie, c'est pas la peine de traduire, tout le monde comprend. Health, c'est la santé. Et happiness, bonheur, bonheur. Merci beaucoup. En général, quoi que nous soyons, nous aspirons au bonheur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne souhaitent pas le bonheur? Alina. Touché de l'air. J'étais en train de demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aspirent pas au bonheur? Y en a-t-il?
Tous aspirent au bonheur.
Croyez-vous? Mais c'est une question... Y a-t-il parmi vous, je suis sérieux, quelqu'un qui n'aspire pas au bonheur? C'était, admettons que nous... Il y a un consensus. Nous aspirons au bonheur. Et c'est une réalité de la vie. Tout système vivant tend à maintenir son homéostasie, son équilibre interne, qui garantit son équilibre, son être bien, son bien-être, et dans une forme... élaboré, qui est celle de notre condition, bonheur. Bonheur, santé, santé, bonheur. En général, et d'une façon très simple, quand nous sommes en bonne santé, ça va bien. Et la santé est un élément fondamental du bien-être et du bonheur. Parce que quand on est en mauvaise santé, ou pire, quand on est malade, quand on est sous qu'il y a un dysfonctionnement grave, le dysfonctionnement a pour symptôme ce que l'on nomme la douleur, ça va mal, et c'est pas le bonheur, en général. Harmonie, harmonie, qu'est-ce que l'harmonie? Ça n'est pas un terme que l'on utilise énormément en Occident, c'est un terme qui est très fort usité en Orient. Nos amis chinois connaissent bien l'harmonie. L'harmonie, il y a l'équilibre, il y a la complémentarité, un équilibre de ce qui est complémentaire, qui se alors, les musiciens connaissent bien l'harmonie. Nous avons là une grande musicienne. Donc, ce que je voudrais simplement ici suggérer, c'est que l'harmonie en tant qu'équilibre, dans l'interdépendance de tout ce qui est, amène ou est la santé. Ce que l'on nomme habituellement santé, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est lorsque ce que je suis, lorsque mon organisme, mon corps, et ces organes fonctionnent de façon naturelle et harmonieuse. Lorsqu'il n'y a pas de dysfonctionnement, il y a l'harmonie et la disharmonie. La disharmonie et le dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie. Et la santé est harmonie. Donc, cette petite réflexion sur la concomitance, ou en tout cas, on pourrait dire la simultanéité ou la relation entre harmonie, santé et bonheur. Et tout ceci était pour dire que la pratique de ce que l'on nomme méditation, contemplation ou mieux, l'état de présence cultive, développe, favorise ces trois H. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement mondial de mindfulness. Je pense que vous en avez tous entendu parler, peut-être même y avez-vous été exposé, l'avez-vous pratiqué. Qu'est-ce que la pratique de la mindfulness, que l'on a traduit, que l'on traduit en français par pleine présence, pleine conscience. Pleine conscience, pleine présence. Notre faveur va même particulièrement pour pleine présence. Donc, qu'est-ce que cette pratique de la mindfulness, qui est une pratique, un entraînement à la pleine présence. Cette pratique se définit comme l'attention ou la présence à l'instant. Une expérience de l'instant sans jugement ni implication conceptuelle. L'instant présent, nu, cru, brut, raw. L'instant présent tel qu'il est, ni plus ni moins, tel quel. Donc, c'est la définition. Vous la retrouverez avec quelques little tuning, variations dans tous les ouvrages sur la mindfulness. Jon Kabat-Zinn en France, Christophe André. Tous les autres. Et aujourd'hui, Essel, ma gentille assistante, est allée faire un petit tour à la FNAC et elle m'a ramené ce livre qui se nomme « Vers une société altruiste ». C'est un nouveau livre, un dialogue avec le Dalai Lama, des scientifiques et des économistes. C'est un livre qui a été publié sous la direction de Mathieu Ricard et de Tania Singer. ce qu'il y a d'important, ce qu'il est important de voir, qu'il y a aujourd'hui une convergence entre des traditions anciennes, multimillénaires, de la pleine présence, avec la tradition scientifique, expérimentale, contemporaine. Il y a là une révolution, une révolution paradigmatique, un saut quantique de paradigme. Peut-être ce qu'il y a de plus important dans ce 21e siècle, c'était Malraux. Bon. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Spirituel est un mot, une notion discutable, surtout en Occident. Il y a le spirituel et le matériel. Il y a les bleus, il y a les rouges. Mais ce dont nous parlons et ce dont parlait le Bouddha il y a 25 siècles et plus, est une science de la cognition. L'enseignement du Bouddha, dharma en sanskrit, signifie l'exposé de la réalité. Comment la réalité que nous vivons est-elle vécue telle que nous l'expérimentons dans les processus cognitifs qui sont ceux que nous vivons dans nos sens, dans notre expérience incarnée, humaine. Alors, on peut parler d'une science de l'esprit, avec les réserves que je viens de faire, ou mieux, d'une science de la cognition. La pratique de la méditation, avec les réserves que l'on a fait tout à l'heure, étant cette pratique qui consiste à s'entraîner à se libérer des processus cognitifs qui nous aliènent habituellement, qui nous conditionnent, qui nous aliènent, qui nous illusionnent. En ce sens, une voie de libération. Une voie de libération des processus cognitifs, des processus expérientiels, processus conscience, conscient, qui ne perturbent et qui sont source de disharmonie dans ces parasites, perturbations, source de disharmonie, de maladie et de malheur. L'inverse étant la pratique qui cultive, qui nous libère de ces facteurs parasites et qui amène harmonie, santé, bonheur. Alors, tout cela, et on pourrait en discuter, a maintenant des fondements qui sont bien établis. J'entends des fondements. Des fondements contemporains, scientifiques, comme on dit. Dans une perspective de science contemporaine. Cet excellent ouvrage, qui n'en est qu'un parmi beaucoup d'autres, traite de tout cela. Le point est que nous pouvons transformer notre état de conscience. Nous pouvons transformer ce que nous sommes dans l'état cognitif, l'état de conscience qu'est le nôtre. Et le transformer dans une direction d'harmonie, de santé et de bonheur. Bonne nouvelle. Alors, comment ? La pratique, l'entraînement. J'utiliserai l'entraînement maintenant plutôt que méditation. L'entraînement, la pratique, consiste à découvrir la possibilité de vivre pleinement l'instant présent. De vivre pleinement l'instant présent et comme nous le disions tout à l'heure, ou monsieur dont je ne connais pas le prénom le disait tout à l'heure, sans être dans le mental qui ressasse le passé continuellement et anticipe l'avenir constamment. Qu'est-ce qui nous écarte, qu'est-ce qui nous exile de l'instant présent? C'est d'être pris constamment par le mental. Nous sommes possédés par le mental. La pratique consiste à entrer dans la sensation. Dans les sens, dans la sensorialité, dans une sensorialité pleine, ouverte, dans un éveil des sens, un éveil sensoriel, un éveil des sens. Sentir plutôt que penser. Expérimenter plutôt que se représenter. Présent plutôt que représentation. Comment cela peut-il se faire? En s'entraînant dans la sensitivité, dans la sensorialité, dans ce que l'on nomme la pleine présence au corps, la pleine présence au souffle, la pleine présence à l'environnement, la pleine présence ouverte, la pleine présence à la vie quotidienne, la pleine présence à la vie. Ce sont les étapes, il en est 8, de l'entraînement, qui ne font que reprendre une méthode antique que le Bouddha, il y a 2500 ans, savons-nous maintenant, enseigna dans un texte bien connu, le Satipatthana Sutta, qui s'est développé aussi dans toutes sortes de pratiques connues sous des noms sanscrits, exotiques, shamatha, vipassana, mahamudra, dzogchen, mais dont la quintessence, l'essence est la pleine présence. ce que conventionnellement l'on nomme méditation. Et cette qualité de pleine présence est une expérience libératrice dans la perspective des trois H, libératrice au sens où elle favorise l'harmonie, elle favorise la santé, elle favorise le bien-être. Il y aurait plein d'exemples, plein de situations et aujourd'hui d'expériences. La littérature scientifique abonde d'une multitude et d'une foultitude de rapports dans ce sens. Mais c'est une réalité et ce qui est important, c'est de l'entendre, de le comprendre. Il ne s'agit pas de le croire. Nous sommes dans une démarche expérimentale et scientifique. Il s'agit peut-être d'examiner, de considérer et de faire l'expérience. Et si celle-ci s'avère être probante, de la retenir comme telle, bonne, sinon, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà le cadre général. Nous allons, je vais vous proposer un petit moment d'expérience. Mais avant, avez-vous sur ce que j'ai exposé des remarques ou des questions? S'il vous plaît.
Comment justement réussir à se libérer de ces processus cognitifs si la démarche est assez cérébrale, dans le sens où j'ai bien compris que les sens nous permettent de nous connecter au présent, mais il y a une démarche cérébrale à faire pour identifier ce à quoi on pense, identifier et comprendre ces processus cognitifs.
L'homme est un animal mental, c'est comme ça. L'homme est un animal mental et l'on part nécessairement de là où nous sommes. Donc, il est important de comprendre intellectuellement, mentalement et particulièrement si nous sommes des bipèdes hypermentaux comme le sont les occidentaux modernes. Une compréhension intellectuelle est bonne, nécessaire, et elle nous amène à comprendre les limites et les problèmes qui sont ceux du mental, de l'hypermental, des représentations qui nous font finalement vivre dans un monde, dans une bulle mentale, rien que mentale. Non, on le peut comprendre, sinon. Et si on le comprend, et que l'on comprend qu'il y a des problèmes, et il y a des gros problèmes, dans cette attitude, eh bien, on trouvera l'inspiration qui nous permettra de nous engager dans une pratique pour y remédier. Ça va comme réponse ?
Dans un premier temps, oui. Je sens que j'aurais besoin d'autres... Non, mais sur cette notion de lâcher prise, vous parlez effectivement de faire cette démarche cérébrale, d'essayer de comprendre effectivement quels sont les processus, qu'est-ce qui nous amène à nous écarter. Enfin, moi, je parle beaucoup de m'écarter de moi-même ou de m'écarter de nous-mêmes parce que ces représentations nous poussent justement à incarner peut-être d'autres choses qui ne sont pas nous. Mais du coup, tout ce travail-là cérébral, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très présent, plus que dans le ressenti, la quête d'essence que vous décrivez. Et du coup, j'ai du mal en fait, à me situer sur la démarche, mais ouais, c'est juste...
Nous allons maintenant faire une expérience d'essence. Mais la première partie est de comprendre son utilité et son bien fondé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? S'il vous plaît.
Je pose la question de savoir comment lier motivation et lâcher prise dans la pratique. Ou motivation et non-attachement.
La motivation la bonne motivation est une impulsion sur la voie. Sur quelle voie? Vous le dites, la voie du lâcher prise. J'abonde dans votre hypothèse, pour lâcher prise, il y a besoin d'une motivation. Il y a besoin d'une motivation et aussi d'une non-peur. Si vous êtes accroché, quand vous dites lâcher prise, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a en bas. S'il y a un bassin avec des crocodiles, vous n'êtes pas d'accord. S'il y a une piscine, vous regardez s'il y a de l'eau dans la piscine. Donc, la motivation, oui. Et aussi une confiance que c'est possible et que c'est bon. Donc, la motivation est l'induction qui permet... Tout commence avec la motivation. Et toute expérience commence avec la motivation. Une expérience scientifique, quelle qu'elle soit, commence avec une motivation, une hypothèse. Une hypothèse, une intuition et la motivation de tester cette hypothèse pour la valider ou en tout cas la tester. Très important la motivation. Si pas de motivation, il ne se passe rien. Donc ce soir, j'essaye de susciter, en quelque sorte, une motivation. En disant que c'est possible, c'est bon. Yes, you can. Vous pouvez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Est-ce qu'on peut rester longtemps au stade de la motivation, du fait de ces échecs, justement? Les échecs, justement, peut-être une moindre motivation, mais qui, face à ce ras-le-bol un peu de ces échecs, nous motive, mais souvent j'ai l'impression que ce stade-là, d'être simplement motivé par le fait que bah, sans pratique, il y a beaucoup d'échecs de toutes sortes, est-ce qu'il y a, voilà, y a une bascule qui peut se faire à un moment donné?
Oui. Les échecs ont un bon côté. Si on voit que l'on n'a pas, ça n'a pas bien fonctionné, là, il y a une analyse nécessaire eu égard à un échec. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a foiré? C'est par une succession de tentatives et possiblement d'échecs que l'on réussit. En apprenant de ces échecs, en sachant les intégrer comme des leçons ou enseignements, on a tous dans notre vie eu toutes sortes d'échecs. On a plein de trucs qui n'ont pas tourné. En général, les situations ne fonctionnent pas vraiment comme on voudrait. Donc, les échecs sont un maître. Les échecs sont un enseignement, si on les intègre. Bien. Je vous invite à bien vous asseoir. À trouver une assise confortable et équilibré. Sans tension. On peut un petit peu bouger pour se délier. Et lorsque l'on est ainsi bien posé, je vous invite à sentir votre corps. Rien de particulier, mais de sentir votre corps. Sentir ce corps, sentir tout ce corps, le sentir dans toute toutes ces parties, dans tous ces aspects. D'entrer dans la sensation j'entre dans la sensation de mon corps en sentant ce corps pieds, jambes, mains, bras, abdomen, tronc, épaules, tout mon corps, tout ce corps, très simplement, et en se laissant aller dans cette sensation, en entrant dans cette sensation du corps tel qu'il est présentement, avec ses aises et s'il en est même des malaises, tel qu'il est, sentir son corps. Et l'on peut sentir ce corps entrer dans son expérience, peut-être une certaine chaleur, une certaine subtile vibration, sensation. On se laisse aller dans la sensation du corps, telle qu'elle est, tout simplement. Et de remarquer aussi que dans ce corps, ça respire. Il ne s'agit pas de respirer particulièrement, mais ça respire naturellement. Et de sentir ce souffle. En ce corps va et vient, simplement, continuellement. Une simple sensation de notre respiration qui continuellement va et vient, et de rester en cette simple sensation. la simple sensation du souffle, sans la quitter, sans s'en distraire. Rester plongé, absorbé en cette simple expérience. C'est excellent. C'est une façon de sentir ce que l'on nomme la sphère corporelle ou la sphère intérieure. Vous pouvez aussi à ce point, si vous voulez, ouvrir les yeux et rester le regard posé dans l'espace, dans une vision large, dégagée. Ce que l'on nomme certaines fois une vision panoramique, ce qui signifie large et qui vient naturellement lorsque l'on relâche ses yeux dans l'espace. Un petit peu en hauteur, c'est plus facile, car il n'y a plus d'espace. Et de rester simplement relâché dans cette vision ouverte, dans cette ouverture du champ visuel, cette ouverture sensorielle qui va de pair avec une ouverture du champ auditif et de tous nos champs sensoriels. De rester dans cette sensation ouverte, tout simplement. Dans la sensation d'une simple ouverture des sens. Et ça respire toujours. De sentir aussi que ça respire. Et ainsi de rester quelque temps relâché, détendu, en cette simple ouverture sensorielle, en laissant être tel que c'est. Très bien, comment ça va? Rapport d'expérience? Observation? Nous sommes dans une démarche expérimentale. Vous avez, la plupart d'entre vous, appris ça. On fait une expérience, on observe. Et ensuite, rapport d'expérience. Y a-t-il... Comment ça se vit, s'il vous plaît, monsieur?
Beaucoup d'idées qui traversent l'esprit.
Oui, très bien. D'autres observations?
Sommeil.
C'est madame. Somnolence.
Somnolence.
Oui. Très bien. D'autres observations? Oui.
Relaxation, détente.
Oui. Très bien. D'autres observations? Si on avait le temps, il faudrait que je vous fasse parler chacun et chacune, chacune et chacun. Oui.
Dans la piscine.
Pardon?
La piscine était pleine d'eau. J'ai pu lâcher prise sans crainte.
Vous lâchâtes. Très bien. C'est excellent. D'autres remarques? Oui, madame?
Oui, pareil, enfin, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de lâcher prise.
Bien. D'autres... Oui.
Quelques douleurs physiques quand même.
Quelques douleurs physiques. Oui. Bon. Là, ce serait très intéressant de continuer et on fait tous les mêmes expériences. Donc, c'est toujours intéressant. On a tous les mêmes expériences et les mêmes difficultés. Alors, on peut avoir des douleurs physiques quand on se relâche, qu'on se détend, qu'il y a un lâcher prise. Il y a deux difficultés habituelles. L'agitation et la torpeur. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dit, beaucoup d'idées. En fait, c'est pas qu'on a plus d'idées d'habitude ou plus d'agitation mentale qu'avant, mais c'est tout d'un coup, on se rend compte que... que ça n'arrête pas. Et puis, quand certaines fois ça commence à se calmer, torpeur. Donc, c'est normal. Dans l'agitation, on reste, on lâche. On reste dans la sensation. Un grand point est sentir plutôt que penser. Sensation. Sensation du corps, sensation du souffle, sensation de l'environnement. Et l'on apprend, on s'entraîne ainsi dans la sensation. Si l'on somnole un petit peu, il est bon de reprendre un peu de tonus. De se stimuler un petit peu. Voilà. Autrement, ça s'appelle une sieste ou une ronflette. Donc, et ce qui est important, cette qualité de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise ainsi? Comment ça se passe? Hein? Comment?
D'abord prendre conscience de son corps. Et c'est à partir de ce moment-là où on prend conscience de son corps qu'on peut le détendre.
Ouais.
relâcher les tensions qui existent dans les pieds, dans les mains.
Ouais.
Les joues, les muscles auxquels on ne pense pas actuellement.
Ouais. Quand on va les visiter, d'autres remarques?
Dans le meilleur des cas, il peut y avoir un grand blanc, un grand calme. Le meilleur des cas.
Ouais.
Calme mental. Plus rien ne se passe. Ça, je dis bien, c'est dans le meilleur des cas.
Le problème, c'est que quand on prend conscience de ce grand blanc, de ce blanc, de ce calme, alors là, ça s'arrête.
Voilà.
Ah oui, c'est-à-dire, on se ressaisit, comme on dit. On se dessaisit, ça s'appelle lâcher prise, puis à un certain moment, on se ressaisit. Oui ? Donc, bravo. Et la pratique consiste à apprendre à se dessaisir de plus en plus. Et on éprouve de moins en moins le besoin de se ressaisir. On découvre que ça n'est pas nécessaire. Et que dans la dessaisie, qui est une dessaisie du mental, on vit l'instant présent. Et quand on se ressaisit, on repart dans nos histoires, à ressasser le passé ou anticiper l'avenir, comme on disait au début. Santé. Bien, écoutez, nous avons fait un petit tour comme cela. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, de votre pleine présence. Dans une soirée comme celle-ci, la dernière partie est une expérience de bonté. Il y a différentes versions. Mais ce soir, ce sera du bonté à l'eau chaude, si vous le voulez bien. C'est pour ça que nos gentils organisateurs, si je ne me trompe pas, nous ont préparé un bonté, ce qui va nous donner l'occasion de faire connaissance et d'avoir un petit moment convivial d'échange, et puis de nous désaltérer après ces expériences. Bonne soirée et à tout de suite.